VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 19 août 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. Au sommaire du journal. Au Tchad, la marche organisée par Wakid Sama a été dispersée aujourd'hui. Ce collectif voulait se faire entendre à la veille de l'ouverture samedi à N'Djamena du dialogue national. L'armée sénégalaise a su maintenir ses effectifs au Mali au sein de la force des Nations Unies. Les Angolais sont appelés aux urnes le 24 août. Ils éliront un nouveau président et des députés. En Algérie, la plupart des incendies sont maîtrisés selon les pompiers. Les feux de brousse ont tué au moins 38 personnes et fait 200 blessés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé aujourd'hui à la Russie de ne pas couper du réseau ukrainien la centrale nucléaire de Zaporijia. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. On commence par le Tchad. Des rassemblements sporadiques à l'appel de l'opposition ont été rapidement dispersés par un important dispositif policier. Ce matin, à N'Djamena, la manifestation avait été interdite par le ministre de la Sécurité publique, estimant que les organisateurs de la marche n'ont pas respecté le délai légal de dépôt. Wakid Tama, un collectif de partis d'opposition et d'associations de la société civile, souhaitait manifester la veille de l'ouverture, demain samedi à N'Djamena, du dialogue national inclusif entre l'opposition civile et armée et la junte au pouvoir. Un dialogue qui doit déboucher sur des élections libres et démocratiques et la remise du pouvoir aux civils. Wakid Tama ne participera pas au dialogue qu'elle considère comme biaisé. Nous reviendrons dans la seconde partie de cette édition sur le dialogue politique au Tchad. L'armée sénégalaise a assuré qu'elle maintiendra son niveau de participation à la MINUSMA en réponse à des propos de l'opposant sénégalais et candidat déclaré à la présidentielle Ousmane Sonko. Le gouvernement de Dakar est l'un des principaux contributeurs en soldats et policiers à la force de l'ONU au Mali. Éric Manirakiza.
Lors de l'annonce jeudi de sa candidature à la présidentielle de 2024, le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko s'est prononcé au sujet du Mali. Il a assuré qu'il dépêchera des troupes pour soutenir les Maliens et en finir avec la gangrène djihadiste s'il est élu. M. Sonko s'en est pris au président Macky Sall et à la France, en exprimant aussi un soutien appuyé au chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta. La déclaration de Ousmane Sonko est intervenue après que le bataillon sénégalais basé à Sévaré dans le centre Mali a entamé sa relève cette semaine. Dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi, l'état-major sénégalais dit avoir procédé à une relève périodique. Contrairement à certaines informations données dans la presse, le Sénégal ne s'est pas désengagé du Mali. La relève de cette semaine est une opération normale visant à remplacer, nombre pour nombre, les troupes engagées par le Sénégal dès les premières heures de la crise, précise le communiqué. Le Sénégal compte 1300 soldats, gendarmes et policiers au sein de la MINUSMA, qui compte environ 17 500 hommes et femmes, dont plus de 13 000 soldats et policiers.
Le gouvernement français a assuré ce vendredi rester totalement engagé pour la libération du journaliste Olivier Dubois, enlevé au Mali. Le retrait de l'opération Barkhane du Mali ne diminue en rien la mobilisation de la France pour faire libérer M. Dubois, a dit à la presse le porte-parole adjoint des affaires étrangères, François Delmas. Le journaliste qui vit et travaille au Mali depuis 2015 a lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021. Dans le nord-est du Nigeria, 35 travailleurs humanitaires ont été tués depuis 2016, a déclaré vendredi l'ONU, qui appelle à leur protection. Mathias Schmal, le coordinateur humanitaire de l'ONU pour le Nigeria, a loué le travail des humanitaires qui fournissent de l'aide à des millions de personnes dans le nord-est. Le nord du Nigeria est en proie à une insurrection djihadiste. La rébellion de Boko Haram, qui a éclaté en 2009, a fait au moins 40 000 morts et 2,2 millions de déplacés. Les Angolais se rendront aux urnes le 24 août. Ils éliront un nouveau président et des députés. La présidentielle s'annonce comme une confrontation entre le parti au pouvoir et une opposition de plus en plus attrayante pour la jeunesse. Yacouba Ouédraogo.
L'UMPLA, présidé par João Lourenço depuis 2017, dirige l'Angola depuis l'indépendance du pays en 1975. Mais le parti d'opposition, l'UNITA, mobilise un nombre croissant d'électeurs, surtout que la colère des populations grandit face aux échecs du gouvernement à convertir les vastes richesses pétrolières en meilleures conditions de vie. En mai, une enquête d'Afrobaromètre a montré que de plus en plus d'Angolais sont favorables à l'UNITA, dirigé par le charismatique Adalberto Costa Junior. Il récolte 22% des sondages de vote contre 13% en 2019, mais toujours 7 points derrière le MPLA. Cette enquête indique que près de la moitié des électeurs sont indécis. João Lourenço a été choisi par son prédécesseur José Eduardo dos Santos pour lui succéder lorsque ce dernier a démissionné en 2017. Il s'est engagé à lutter contre la corruption, ciblant les enfants de l'ancien dirigeant pour récupérer des milliards de dollars présumés détournés. Lourenço a aussi signé un accord avec le FMI et amélioré les liens avec l'Occident pour repositionner l'Angola comme une destination d'investissement digne de confiance.
L'Afrique du Sud a enregistré près de 70 meurtres par jour au cours du premier semestre, en hausse de 16,5% par rapport au premier semestre 2021, a déclaré aujourd'hui la police. Le pays qui détient un des pires taux de criminalité dans le monde a enregistré 6424 meurtres d'avril à juin, a déclaré la police. Ils viennent s'ajouter aux 6083 déjà enregistrés au premier trimestre 2022. L'an dernier, il y a eu en moyenne 65 meurtres par jour. En Algérie, les pompiers ont annoncé ce vendredi avoir maîtrisé la totalité des incendies qui ont ravagé le nord-est du pays, faisant au moins 38 morts et environ 200 blessés. Claire Morin-Gibou.
Tous les feux sont totalement maîtrisés, a déclaré à l'AFP le colonel des pompiers, Farouk Achour, de la protection civile. La majorité des décès a eu lieu à El Tarf, près de la frontière avec la Tunisie. Pendant deux jours, plus de 1700 pompiers ont lutté pour éteindre plus de 70 foyers d'incendie qui ont fait aussi environ 200 blessés, dont certains gravement brûlés. Des experts ont critiqué des lacunes dans le dispositif anti-incendie, notamment un manque d'avions bombardiers d'eau et des forêts mal entretenues. Depuis le début du mois d'août, plus de 200 incendies ont détruit des centaines d'hectares de forêts étaillées en Algérie. Chaque été, le nord de ce pays est touché par des feux de forêt, mais ce phénomène s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique. L'été 2021 a été jusqu'ici le plus meurtrier. Plus de 90 personnes avaient alors péri dans des feux de forêt ayant dévasté le nord algérien, en particulier la Kabylie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé aujourd'hui à la Russie de ne pas couper la centrale nucléaire de Zaporijia, qu'elle contrôle du réseau ukrainien, au moment où Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de dangereux bombardements du site. Rosine Monezero.
Bien évidemment, l'électricité de Zaporijia est une électricité ukrainienne. Ce principe doit être pleinement respecté, a déclaré Antonio Guterres lors d'une conférence de presse. L'opérateur des centrales ukrainiennes Energoatom a dit craindre vendredi que la Russie ne coupe du réseau électrique ukrainien la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe et qu'elle contrôle depuis mars. Selon l'opérateur ukrainien, les militaires russes sont en train de chercher des approvisionnements pour des générateurs au diesel qui seraient activés après l'arrêt des réacteurs et ont limité l'accès du personnel au site. Moscou et Kiev se sont accusés mutuellement ces dernières semaines de bombardements qui ont ciblé cette centrale nucléaire située dans le sud de l'Ukraine, faisant ressurgir le spectre d'une catastrophe majeure en Europe. M. Guterres avait estimé jeudi que tout dégât potentiel à Zaporijia sera un suicide et a appelé à démilitariser le territoire de la centrale. M. Guterres poursuit sa visite en Ukraine. Il était attendu aujourd'hui à Odessa, grand port du sud de l'Ukraine.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden va organiser en septembre une conférence visant à combattre l'extrémisme politique et la violence raciste en Amérique, a annoncé aujourd'hui la Maison-Blanche à moins de trois mois d'élections législatives qui s'annoncent difficiles pour les démocrates. La rencontre est prévue le 15 septembre et va s'intituler « United We Stand, faisons front ensemble afin de riposter aux effets corrosifs de la violence provoquée par la haine sur notre démocratie et la sécurité publique », a détaillé dans un communiqué Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche. La police nicaraguayenne a amené de force aujourd'hui matin l'évêque de Matagalpa, Rolando Alvarez, critique du président Daniel Ortega. Il était empêché de sortir depuis des semaines par le gouvernement qui l'accuse de déstabiliser le pays. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Claire Morin-Gibou.
Le Cameroun a produit et commercialisé près de 300 000 tonnes de cacao au cours de la campagne 2021-2022, selon les chiffres de l'Office national du cacao et du café. Le prix de vente du kilo de fèves de cacao a été fixé à 1 290 francs CFA maximum, contre 1 210 francs CFA l'année précédente. Les ventes de fèves brutes de cacao représentent 13% des recettes d'exportation au Cameroun, juste derrière le pétrole brut à 39%, selon les données de l'Institut national de la statistique. En Côte d'Ivoire, 500 000 terminaux de vérification d'identité ont été mis mercredi à la disposition de l'Association des sociétés de transfert d'argent et de change du pays par l'Office national de l'état civil et de l'identification pour réduire la fraude sur l'identité et sécuriser les transactions. L'usurpation d'identité et la cybercriminalité font perdre des milliards de francs CFA chaque année aux entreprises et à l'État ivoirien. Le Togo est en train de créer une marque nationale pour des produits conformes à ses normes de qualité et cherche à créer un logo pour son nouveau label. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale vient de lancer un concours de création ouvert à tous les résidents togolais.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
On connaît les affiches du premier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans.
Oui, 20 sélections sont en lice pour ce premier tour prévu en septembre. Parmi elles, la République démocratique du Congo qui affronte l'Éthiopie, la Mauritanie qui joue le Togo et le Burkina Faso qui fait face à la Gambie. Pour la suite, le gagnant du match RDC-Éthiopie affrontera l'Algérie, exempté du premier tour, tandis que le gagnant de Burkina Faso-Gambie croisera le chemin du Sénégal, nous dit le site AfriFoot. Certaines affiches du second tour sont déjà connues. C'est le cas de Congo-Tunisie, Guinée-Ouganda et Soudan-Bénin. Les sept vainqueurs du troisième tour rejoindront le Maroc, qualifié en tant que pays hôte pour la phase finale de cette CAN des moins de 23 ans, programmée en juin 2023. Ce tournoi permettra de désigner les trois représentants africains pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Le patron du Borussia Dortmund dément tout contact pour un transfert de Cristiano Ronaldo.
Il n'y a absolument aucun contact entre les parties prenantes et en conséquence, pas de transfert. C'est ce que soutient Hans-Joachim Watzke sur les rumeurs d'une éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo à Dortmund. Selon certains médias, Cristiano Ronaldo serait intéressé par le Borussia Dortmund où il aurait la garantie de jouer la Ligue des Champions cette saison, ce qui n'est pas le cas à Manchester United. Le Borussia a perdu à l'intersaison son avant-centre norvégien Erling Haaland, parti à Manchester City, remplacé par l'Ivoirien Sébastien Haller, lui aussi absent plusieurs mois en raison d'un cancer des testicules, diagnostiqué quelques jours après sa signature à Dortmund. Pour pallier cette absence, les jaunes ont recruté Anthony Modeste. Quintuple Ballon d'Or, CR7, est encore sous contrat un an avec Manchester United. Il avait séché la reprise des entraînements des Reds du Velsen en juillet, puis la tournée en Asie et en Australie.
NBA, les Lakers officialisent la prolongation du contrat de LeBron James.
LeBron James restera avec les Los Angeles Lakers jusqu'en 2025. La franchise multititrée n'a pas précisé les détails financiers de l'opération, mais Rich Paul, agent de la star, a précisé mercredi auprès d'ESPN qu'il était d'un montant de 97,1 millions de dollars et qu'elle s'accompagnait d'une option pour la saison 2024-2025. Il restait un an de contrat à LeBron James avec la franchise californienne. La prolongation de King James lui assure à bientôt 38 ans, au moins 2 ans de plus sur les parquets de la Ligue de basketball nord-américaine, et le rapproche de son objectif de fin de carrière, jouer aux côtés de son fils Bronny, 17 ans, qui pourra postuler à la draft de la NBA de 2024. Malgré son âge et quelques blessures, LeBron était parvenu à apporter un nouveau titre aux Lakers en 2020, le 17e de la franchise et sa 4e bague sur le plan personnel.
Page de sport VO Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, la capitale N'Djamena s'apprête à abriter le dialogue national inclusif dont les travaux s'ouvrent demain 20 août. Plus de 1500 participants sont attendus à ce rendez-vous qui va poser les jalons pour la refondation de la nation tchadienne après la mort brutale du maréchal du Tchad qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant plus de 30 ans. Plusieurs principaux acteurs politiques de l'opposition et de la société civile refusent de prendre part à ces assises. André Côte-Bajinga, correspondant à VOA Afrique, fait le point dans la capitale tchadienne.
N'Djamena vit au rythme de cette grand-messe politique telle que voulue par le Conseil militaire de transition. La plupart des groupes rebelles qui ont signé l'accord de Doha sont arrivés à N'Djamena. Mais les grands absents de ce rendez-vous sont le FAT, le Front pour l'alternance et la concorde nationale qui a poussé à la transition, le groupe de réflexion de l'appel du 1er juin, la principale coalition Wakitama qui regroupe en son sein des organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition.
Sur les 1400 participants, vous avez plus de 1000 qui sont proches du régime. Ils vont décider ce qu'ils voudront du Tchad. Quelle que soit la présence de tel ou tel, ça ne va pas les empêcher. Ce que nous avons vu, nous ne pouvons pas être témoins de cette mascarade que nous savons d'avance.
L'opposant Yahya Diallo, l'ex-chef de guerre Abdelkader Babalade, aujourd'hui président du parti Front Populaire pour le Redressement, se dit surpris d'être écarté alors qu'il affirme avoir soutenu le processus de transition dès le début.
Nous sommes le premier parti politique après le décès tragique du maréchal. Nous avons prôné la politique du CMT et nous croyons que le FPR devrait vraiment accompagner la transition jusqu'à la fin. Mais hélas, nous sommes vraiment le grand perdant et c'est aussi une identité culturelle qui est aussi inscrite à travers ma personne.
L'opposant Yahya Diallo estime pour sa part qu'il ne sert à rien d'aller faire de la figuration dans la salle, puisque, dit-il, en dehors des délégués à cette rencontre, les personnes ressources cooptées à la dernière minute sont presque les anciens membres du bureau du mouvement patriotique du salut de l'ex-parti au pouvoir. Yahya Diallo se prononce sur l'accord de Doha qui a permis à certains leaders de groupes politico-militaires de regagner le bercail.
La note positive de ces pré-dialogues, c'est peut-être beaucoup de nos compatriotes qui étaient des figures importantes de l'opposition politico-militaire sont rentrés. Maintenant, est-ce que ceux qui détiennent réellement des armes et des combattants sont rentrés? Je ne le pense pas.
En revanche, Abdelkader Babalade estime que le retour au bercail de ses anciens compagnons de lutte armée va aider à enterrer définitivement la hache de guerre. Toutefois, il émet une inquiétude.
Nous avons signé l'accord depuis 2012, mais jusqu'à aujourd'hui, le point 5 de notre accord qui stipule le retour effectif de nos hommes n'est pas encore fait. Voilà, c'est ça mon inquiétude. Sinon, pour nous, tout le monde doit rentrer au pays, ce n'est que normal.
Gilles Emenoumaseri, activiste panafricaniste, invite la population à soutenir la lutte pour la dignité que mènent la coalition Wakitama et le parti Les Transformateurs.
Depuis les seuls aujourd'hui qui sont légitimes pour porter les revendications du peuple tchadien, c'est Wakitama et Masra Tchouché. Masra Tchouché, c'est du vol sur le balcon. Dit l'égalité, la justice ou la résistance. Pacifique, c'est du peuple tchadien. On va gérer la lutte. Désormais, ce sera le mot d'ordre. Et tout le peuple tchadien, ça doit suivre ce mot d'ordre. Si nous voulons nous libérer de l'esclavage.
Une manifestation programmée ce vendredi par Wakitama pour exiger l'inclusivité du dialogue a été interdite par les autorités qui ont mis tous les services de sécurité en alerte. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Dialogue national au Tchad, donc, quels en sont les enjeux et les limites? À 2 mois de la fin théorique de la transition, Yacouba Ouédraogo a posé la question à Manassé Serge Goutinga. Il est le directeur de publication du journal Al-Akba à N'Djamena.
Tous ceux qui soutiennent en ce moment le processus de transition prendront part à nous. Voulons dire par là que le MPS a la majorité dans les gens qui doivent être là-bas avec ses alliés.
Quand vous dites le MPS,
c'est le parti du défunt président Idriss Déby. Donc c'est eux qui sont majoritairement inscrits. C'est eux-mêmes qui sont en train d'organiser ce dialogue parce que tous les ténors du MPS sont les membres du CODNI. Hein.
Pourquoi organiser ce dialogue-là?
En fait, on pensait qu'organiser ce dialogue pouvait permettre aux Tchadiens de débattre sincèrement de ce qui se passe dans ce pays depuis plus de 30 ans. Parce que tout ce que nous avons hérité de la colonisation de la France est toujours transformé en malheur pour ce pays. Or, depuis 40 ans bientôt, où le Frelimo a pris le pouvoir, ça s'est exacerbé. problèmes qui vont de la déliquescence de l'État jusqu'à la déliquescence de l'école. Alors il fallait mettre tout ça sur une table, en discuter, peut-être refonder un pays. Malheureusement, c'est encore raté.
Justement, vous dites que c'est encore raté. Quels sont les enjeux de ce dialogue national inclusif?
Les enjeux sont beaucoup plus politiques parce que le CNC qui a pris le pouvoir après le coup d'État veut se maintenir au pouvoir. Il n'y a pas d'autre alternative que de confisquer ce pouvoir-là. Et s'il n'y a pas d'autre alternative, c'est d'organiser un faux dialogue, un pseudo-dialogue, parce que nous, même la presse, nous avons combattu longtemps avant d'avoir notre part dans le comité d'organisation et nous ne sommes même pas à mesure de discuter de nos problèmes qui concernent les journalistes dans ce dialogue.
Avant ce dialogue, il y a ce qu'ils ont appelé un pré-dialogue à Doha au Qatar. Une quarantaine de groupes politico-militaires ont signé, d'autres n'ont pas signé, dont un important groupe comme le FACT et également l'UMDD. Quelles sont les limites de ce dialogue, les limites qui s'annoncent déjà, on va dire?
C'est d'abord l'opposition démocratique à l'intérieur qui n'est pas partant pour ce dialogue. Je peux citer pêle-mêle le Gokistama, le regroupement de partis politiques, une nation pour tous, les fédéralistes. Ils sont nombreux qui sont contre ce dialogue simplement parce qu'on ne les a pas conviés en termes de parité. Eux, ils ont toujours posé la question de la parité dans l'organisation du dialogue et la composition de la table du dialogue. L'autre problème, c'est les politico-militaires. Ceux qui ne sont pas venus ne sont pas simplement d'accord avec le format. Les thématiques retenues qui ne les intéressent pas.
Quelles thématiques?
Les thématiques sur la forme de l'État, l'administration, la justice, la question de pardon, de paix et réconciliation. On n'a jamais inscrit ça dans le grand débat. On voudrait simplement faire comprendre aux gens que nous avons fait 30 années, 40 années de guerre, donc arrêtons de faire la guerre, mais nous, on va continuer à porter les armes.
C'était Manassé Serge Gotinga, directeur de publication du journal Al-Akba à N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La redistribution des terres dans la partie occidentale du Tigré bute sur de gros obstacles. Ces efforts suscitent des protestations de la part des habitants de la région contestée. Les Tigréens suspectent les initiateurs de vouloir les chasser de la région et les Amaras se disent négligés à cause des nouveaux arrivants. Henry Wilkins a enquêté. La narration est de Rosine Monezero.
La Commission éthiopienne des droits de l'homme d'Addis Abeba, financée par l'État, a récemment déclaré à la VOA qu'elle pourrait enquêter sur les allégations de redistribution illégale de terres dans la région contestée du Tigré occidental. Tariku Agitachu est directeur du droit et de la politique au sein de la Commission.
Si ces affirmations sont vérifiées, elles sont plus certainement définitivement très préoccupantes pour la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Et nous allons surveiller et enquêter, oui.
L'agence Reuters avait rapporté en juin 2021 que les autorités régionales d'Amhara encourageaient les Amhara à s'installer à Maïkadra dans le Tigré occidental, une région administrée par la région du Tigré depuis des décennies. Selon les responsables régionaux d'Amhara, un demi-million d'Amhara de souche avaient été chassés de leurs terres pendant les 30 ans de règne du gouvernement précédent, dominé par l'un des partis de la coalition dirigeante, le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, au pouvoir jusqu'en 2018. La VOA n'a pas pu vérifier cette affirmation de manière indépendante. Reuters indiquait également que les Tigréens étaient illégalement chassés de leurs terres dans le cadre d'un effort visant à déplacer l'ethnie Amhara vers les terres contestées, ajoutant aux préoccupations des groupes de défense des droits humains concernant un nettoyage ethnique dans la région. Depuis lors, les responsables de l'Amhara sont réticents à donner des informations sur l'ampleur du projet d'installation de l'ethnie Amhara sur les terres précédemment habitées par les Tigréens. Certains d'entre eux ont toutefois déclaré à la VOA en mai que l'ethnie Amhara continuait à s'installer sur les terres contestées. Mais les Tigréens ne sont pas les seuls à être touchés, disent les habitants. Lors d'un accès rare à Maïkadra, une ville du Tigré occidental, la VOA a découvert une manifestation organisée par l'ethnie Amhara contre les nouveaux arrivants du même groupe ethnique. Les manifestants affirment que les résidents de longue date sont négligés. Un manifestant s'est exprimé sous anonymat.
Aujourd'hui, nous avons été obligés de sortir pour protester en demandant des terres, car nous sommes délestés après le massacre et nous avons besoin de cultiver la terre pour notre pain quotidien.
La ville de Maïkadra a fait les gros titres de la presse mondiale en novembre 2020 lorsque des centaines de civils de l'ethnie Amhara y ont été massacrés par des membres de l'ethnie tigréenne. Le maire de Maïkadra, Cheru Hagos, insiste sur le fait que les relations entre les deux groupes ethniques se sont améliorées récemment.
Les personnes coupables d'avoir perpétré le massacre ont déjà quitté la ville. Ces tueurs seront jugés. Personne ne les a poussés à quitter la ville. Ils sont partis de leur propre chef car ils savent que la terre ne leur appartient pas. C'est pourquoi ils ont tué et massacré.
Hagos a rejeté les allégations d'attaque ethnique contre les Tigréens. Il a aussi minimisé la question des conflits fonciers et des manifestations qui ont eu lieu dans sa ville ce jour-là.
Depuis l'évacuation de dizaines de milliers d'alliés afghans à la suite du retrait américain d'Afghanistan, il y a un an, le département d'État a été chargé de déterminer comment fournir une aide humanitaire aux Afghans. Ces derniers traversent une grave pénurie alimentaire sous le régime des talibans. Un sujet de Saint-Dicenne, le récit est de Claire Morin-Gibault.
La situation humanitaire en Afghanistan est une catastrophe, affirment de nombreux experts. Certains sont obligés de vendre leurs organes ou leurs enfants pour survivre, selon eux. Un an après le retrait des troupes américaines, les États-Unis sont toujours le plus grand pourvoyeur d'aide humanitaire au pays. Écoutons Ferejta Abbasi de Human Rights Watch.
Selon les dernières statistiques publiées par le Programme alimentaire mondial, 90% des Afghans sont confrontés à l'insécurité alimentaire un an après la prise du pouvoir par les talibans. Des gens meurent de faim.
Les talibans ont célébré lundi l'anniversaire de leur retour au pouvoir. Ils affirment qu'ils recherchent des relations politiques et économiques solides avec tous les pays du monde. Mais l'administration Biden remet en question les propos des talibans. Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré que l'administration Biden n'était pas prête à court terme à restituer les fonds détenus aux États-Unis à la Banque centrale afghane, mais elle négocie avec la banque depuis des mois pour essayer de trouver une solution.
En ce moment, nous examinons les mécanismes qui pourraient être mis en place pour veiller à ce que ces 3,5 milliards de dollars d'actifs préservés soient acheminés de manière efficace et efficiente vers le peuple afghan, d'une manière qui empêcherait qu'ils soient détournés vers des groupes terroristes ou ailleurs.
Des spécialistes ont affirmé à VOA que la mort du chef d'Al-Qaïda par une frappe de drone américaine a porté un coup aux efforts pour libérer les avoirs. Michael Kugelman est spécialiste de l'Afghanistan au Wilson Center.
Maintenant, je pense qu'à la lumière de ce qui s'est passé avec Al-Zawahiri, les États-Unis vont adopter une ligne encore plus dure et ils n'accepteront aucun type d'arrangement pour lui mettre ses fonds sous contrôle afghan, à moins qu'il y ait un mécanisme clair en place, vraisemblablement un type de fonds fiduciaire distinct qui bloquerait les fonds de toute utilisation par les talibans. Les talibans, eux, vont adopter une ligne dure car pour des raisons politiques, ils doivent assurer la légitimité de leur base.
Des experts, dont Abbasi, affirment que la communauté internationale, y compris les États-Unis, a besoin d'intensifier l'aide humanitaire aux civils afghans. Mais ils appellent également les talibans à reconsidérer leurs priorités et à répondre aux besoins fondamentaux de la population, au lieu d'imposer davantage de restrictions, notamment aux droits des femmes.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.